L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 16h05, nous sommes le 6 décembre 1791. Depuis 24 heures, l'un des compositeurs les plus géniaux de l'histoire de la musique s'est éteint à l'âge de 35 ans seulement. Bientôt, son corps sera déposé 6 pieds sous terre. Une fois son cercueil enseveli, ses notes, elles, traverseront les âges et les siècles, tout comme ce mystère devenu mythe. Les circonstances de son décès. La mort du virtuose était-elle naturelle? Le doute est permis, tant et si bien que la légende, bientôt, va supplanter la vérité. Deux heures plus tôt, dans la capitale viennoise, en effervescence à l'approche des fêtes de Noël, une équipe de pompes funèbres, discrètement, vient mettre en bière le corps du chétif compositeur dans un cercueil noir. Ne vous imaginez pas que Mozart soit mort dans un palace, non. Son appartement est celui d'un bourgeois. L'homme mène un train de vie incompatible avec ses rentrées d'argent, et ce, depuis plusieurs années. Le génie est endetté jusqu'au cou, et sa femme se retrouve aujourd'hui avec des créanciers qui viennent déjà réclamer leur part du butin. Mais en attendant, il faut enterrer Mozart. Et le petit cercueil en bois prend le chemin de la cathédrale Saint-Étienne dans un corbillard tiré par 4 chevaux. Ce monstrueux édifice gothique se dresse de toute sa hauteur sur la ville de Vienne. Longue de plus de 100 mètres, large de plus de 30, la cathédrale est ancrée dans le ciel grâce à 4 tours dont la plus haute monte à près de 137 mètres de haut. Remarquable prouesse architecturale. L'intérieur qui s'offre à la cathédrale Saint-Étienne aux yeux des pèlerins et des visiteurs est digne des plus beaux spécimens de la religion catholique. 3 nefs couvertes de voûtes plus travaillées les unes que les autres. Un maître-autel, chef-d'œuvre du baroque primitif. Des vitraux et des tableaux époustouflants. En somme, ce lieu est sans nul doute l'épicentre du catholicisme d'Autriche. La journée d'hiver qui se déroule ce jour de début de décembre est particulièrement froide, quelque peu brumeuse, mais le ciel est d'un bleu éclatant. À l'image de son cher mari, pense en son fort intérieur l'épouse de Mozart en s'installant au premier rang de la nef principale. Le froid mord ses cuisses et transperce jusqu'à son couvre-chef en velours feutré. La messe qui se donne est longue, insipide, ennuyeuse à souhait. Cela la rend folle de colère, tant cela ne ressemble pas à son défunt mari. Elle repense à la dernière composition achevée avant sa mort, la flûte enchantée. Elle a été présentée l'été précédent et le triomphe a été tel que le propriétaire de la petite salle, un ami franc-maçon, a croulé sous les demandes. Mozart s'est ensuite attelé à son requiem, cette composition qu'un illustre inconnu venait de lui commander. Surmenage et santé fragile ne font pas bon ménage. Et cette épouse malheureuse, comme les pierres, maudit la soif de composition de son virtuose de mari. Alors qu'elle s'évade de cette messe ignoblement étirée dans le temps, elle sifflote les premières notes de la flûte enchantée et se revoit au même endroit, le 4 août 1782, au cœur d'un été aux températures insoutenables. Là, en robe blanche, devant cet hôtel, un collier d'émeraude autour du cou, elle avait dit oui à l'homme dont elle était tombée éperdument amoureuse. Elle a accepté durant toutes ces années sans sourciller ce que le génie peut compter de mauvais. Cette arrogance, cette démesure, cette volonté de toujours écrire, pendant le jour, pendant la nuit, malade ou en pleine forme. Son Wolfgang était un homme fait d'un bois tout particulier. Celui des incompris, des perturbés, des ultra-sensibles qui jettent dans le rare les sentiments qui débordent en eux. Quand certains utilisent la violence comme déversoir, celui des prodiges, c'est la beauté, le sensationnel, le plus que parfait. Voilà pourquoi, il y a près de 10 ans, elle n'a pas hésité à dire oui. Alors qu'enfin l'office se termine dans le froid glacial de la fin d'après-midi, Le cercueil est reposé sur le corbillard et se dirige vers l'extrémité de la ville. C'est le cimetière Saint-Marc qui a été choisi pour accueillir la dépouille du plus grand génie musical de tous les temps. C'est à une heure de marche. Toute la petite troupe de noirs vêtus se met en route vers sa destination, et un chien, sorti des ruelles, se met également à suivre la voiture au petit trot. Pour des raisons philosophiques et financières, toute la procession, de la célébration à l'enterrement lui-même, était voulue austère. Le mécène principal de Mozart a financé l'entièreté de la cérémonie, tant les époux sont à sec. Sur le chemin pavé qui conduit son aimé vers l'abîme, sa veuve casse une de ses chaussures. Elle manque de tomber, soutenue par des membres de sa famille. Avec grande humilité et dignité, elle continue son chemin à pied. Le froid tenaille ses chevilles presque nues. Soudain, au loin, la grille du cimetière se dessine et joue avec la brume tombante de la fin de la journée. Pour tous ceux venus assister aux funérailles, les proches compris, les adieux s'arrêtent à l'entrée du cimetière. Impossible d'accompagner le cercueil jusqu'au bout. Une fois les grilles passées, le cocher, mort de froid sous ces 2 degrés qui se font ressentir bien moins, donne un petit coup d'accélérateur et les fers des 4 chevaux font des étincelles sur les pavés. Les 4 destriers passent à une allure un peu plus vive. Le cercueil, lui, tremblote à l'arrière sans vraiment bouger. En voyant s'éloigner pour la dernière fois la dépouille de l'homme qu'elle a aimé, la veuve, jusque-là impassible, ne peut plus retenir quelques larmes. Elles sont dignes, bien sûr. Elles ne sont pas accompagnées de haut-le-cœur ou de soubresauts, non. Non, elles coulent simplement et roulent sur ses joues, viennent mourir dans la dentelle de son col. Alors maintenant que les musiciens et la petite foule s'éloignent, elle se retrouve seule au milieu du passage et au bout du chemin qui la sépare du corbillard, qui disparaît déjà au loin. Transie par la brume et le froid, elle attendra là plus d'une heure que le soir tombe et que la lune apparaisse. Un magnifique croissant qui lui rappelle le sourire si vivant de son Wolfgang. Le corbillard repasse dans l'autre sens. Le cocher ne la remarque pas et, pressé de rentrer chez lui, lance ses coursiers à pleine vitesse sur les pavés viennois. La veuve du musicien, elle, repense avec émotion au jour de leur rencontre, tout en fixant la voûte céleste. Une étoile en plus brille de 1000 feux ce soir dans le ciel. Et Wolfgang Amadeus Mozart n'est mort que pour le monde des vivants. Ce soir, il est devenu immortel. Notre histoire commence en 1777 dans la ville de Mannheim, située dans le sud-ouest de l'Allemagne actuelle. La cité est la capitale du Palatinat depuis un demi-siècle. Le magnifique château établi par le prince électeur trône sur la ville depuis une petite quinzaine d'années et le développement de cette ville en constante évolution attire les grands esprits. Wolfgang Amadeus Mozart est l'un d'entre eux. Et ses jeunes 21 printemps ne l'empêchent pas de révolutionner depuis longtemps déjà le monde de la musique en Europe. Oh, il est un peu extravagant, certes. Porte des habits plus hauts en couleur les uns que les autres, accessoirise chacune de ses tenues, poudre son visage plusieurs fois par jour et ne cesse de siffloter quand il traverse les rues de la bourgade allemande. Ce midi, il est invité au sein d'un foyer bien connu du monde de la musique, les Weber. Cette famille allemande, friande de musique, a l'habitude de donner au pays d'excellents musiciens depuis déjà plusieurs générations. Plus largement, l'école de musique de la ville excelle depuis 20 ans dans la formation des élèves classiques. Mozart le sait, et il tient à s'imprégner de cette ambiance. Il compte même y rester une année complète. En attendant, il est en retard. Il abandonne sa voiture, continue à pied et traverse avenue et boulevard à grandes enjambées. Dans sa tête défilent les notes du prochain opéra qu'il compte écrire en lien avec l'école de la ville. Comme à chaque fois que son esprit s'évade, il se trompe de rue, d'intersection, doit rebrousser chemin et enfin tombe devant la jolie devanture de l'hôtel particulier dans lequel résident les Weber. Toute la maisonnée est bien entendu ravie d'accueillir le jeune virtuose venu d'Autriche. Et le père de famille est tout heureux de lui présenter ses six filles. Tout on la voit travailler dans un registre différent, si bien que l'ensemble forme harmonie quasi parfaite. Parmi elles, une soprano magnifique âgée de 17 ans, Aloysia. Tout de suite, l'aura de la jeune femme subjugue le compositeur, persuadé d'avoir trouvé en elle la femme qu'il va épouser. Il n'a pas encore remarqué que derrière elle se tient Constance, 2 ans plus jeune, mais qui déjà regarde Mozart d'un œil plus que curieux. Le repas se passe à merveille. Le compositeur n'a Dieu que pour sa soprano et lui promet de ne pas l'oublier. Et en effet, l'année suivante, il part pour Paris, à la rencontre de la cour du roi Louis XVI et des fastes du château de Versailles. Il ne manque jamais d'écrire chaque jour à celle qu'il aime. Un petit mot parfois, des lettres enflammées souvent, mais à chaque fois, avec l'attention qu'offre la sensation des premiers amours. En 1781, alors qu'il a 25 ans, Wolfgang est de retour dans la capitale du Palatinat, avec la ferme intention de demander en mariage la jeune femme. Il est alors persuadé que, comme en musique, tout va lui réussir sur le plan amoureux. Mais patatras, la déception est grande lors des retrouvailles. La jeune soprano ne lui donne plus aucune marque d'attention, lassée de ses années d'attente. Et pire encore, elle a choisi de se marier avec un acteur célèbre de la ville. Plus tard, alors qu'elle se morfond auprès d'un époux volage dont elle finira par divorcer, elle regrettera cette décision. Mais ce revirement de situation n'est pas si dramatique pour tout le monde. Pas rebutée par l'amour que Mozart portait à sa sœur, la jeune Constance sort du bois et fait tout doucement comprendre au compositeur que ce dernier l'intéresse. Elle est certes moins charismatique, moins jolie peut-être aussi que sa sœur aînée, mais le manque de confiance en elle qu'il a trahi depuis son enfance touche en plein cœur le jeune homme. Il détache rapidement son regard de la soprano qu'il a éconduit quelques mois plus tôt. Elle est souriante, timide, mais jamais avare de discussions agréables et surtout, plus le temps passe et plus les deux jeunes gens se trouvent des points communs. Rapidement, ce qui n'était d'abord pour Mozart que de l'amitié et du réconfort, se transforme en un amour pur et vrai, partagé depuis bien longtemps par Constance. Comblée, la jeune femme tente, c'est vrai, de résister, de peur de la réaction de son père, mais finit par céder. Oui. Oui, elle va bien épouser Mozart. Le jeune loup, sans attendre l'accord écrit du paternel, ce qui à l'époque est une norme dans les hautes sphères de la société, provoque lui-même leur union dans la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, dans son pays natal. Et vous imaginez comme moi la colère du beau-père qui se retrouve devant le fait accompli et, des années durant, des tensions vont continuer d'exister entre les deux hommes. Mais le jeu en valait la chandelle, tant cette cérémonie du 4 août 1782 est fastueuse, belle et à l'image des jeunes époux. Ils sont tout heureux d'avoir enfin trouvé ce que l'un et l'autre pouvaient chercher. Ils font fi des maugréants et des médisances. Bien entendu, un destin comme celui de Mozart attire son lot de jaloux et certains déjà en coulisses s'affairent pour le faire chuter de son piédestal. Mais aujourd'hui, tout ça semble bien loin. Et enfin, ces deux âmes indépendantes et en recherche de liberté ont chacun trouvé la pièce manquante à leur puzzle. Ce mariage n'a rien d'une union arrangée comme cela pouvait être souvent le cas à l'époque, et cet amour sera concrétisé par la naissance de 6 enfants entre 1783 et 1791, année de la mort du compositeur. Mais la force de l'amour, même le leur, ne fait pas toujours le poids face à la force du destin, et 4 de leurs enfants vont mourir en bas âge. Mais ça, ce 4 août 1782, à la sortie de l'une des plus impressionnantes cathédrales d'Europe, ni Mozart, ni Constance ne le savent encore. Pour le moment, ce sont les sourires qui se lisent sur les visages et le faste qui se devine aux tenues. Rien ne laisse présager des tensions parmi les invités, encore moins le bruissement apporté par le vent chaud et ardent de quelques complots naissants. Pourtant, dans l'assistance ce jour-là, un homme prépare une vengeance plus aboutie que les autres. Il y pense depuis des années déjà. Son nom ? Antonio Salieri, l'autre grande figure de la musique viennoise de ce temps. Son mobile, c'est l'avidité, la jalousie, la peur d'être second certainement également. Mais entre rêver la mort d'un ennemi et passer à l'acte, vous en conviendrez, le fossé est immense. Reste à savoir si l'homme, 6 ans plus vieux que le jeune marié qui se dandine maintenant pour faire rire l'assistance, va franchir le gué et entrer dans la cour des assassins les plus célèbres de l'histoire. Salieri, austère et vêtu d'une tenue sombre, d'un sourire presque narquois, lève son verre en l'honneur des mariés. « Profite, Wolfgang, pense-t-il, en son fort intérieur. Bientôt, tu n'auras plus la force de jouer à l'amuseur public. »
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'un musicien dont la popularité a largement dépassé le cadre de son vivant. Wolfgang Amadeus Mozart. Depuis le milieu du 19e siècle, une théorie tenace existe, visant à prouver que le jeune homme a été empoisonné. L'un des suspects de cette affaire vient de faire son entrée au mariage du jeune homme. L'autre compositeur à succès de la ville de Vienne, Antonio Salieri, aurait-il pu faire assassiner son concurrent ? Pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette rivalité très fraternelle, il convient d'en explorer la genèse. Alors suivez-moi. Nous partons explorer les palais viennois. Nous sommes alors le 17 mars 1781, au cœur d'une pluvieuse journée de printemps. Ce jour-là, Mozart écrit une lettre des plus enthousiastes à son père. C'est très inhabituel dans sa correspondance et on peut tout à fait y déceler l'entrain du compositeur de retour dans une ville qu'il apprécie. En 25 ans, c'est la 3e fois que la capitale accueille le virtuose. La première fois, âgé de seulement 6 ans, il a joué pour l'impératrice Marie-Thérèse et ce fut un triomphe. Rendez-vous compte. Ce gamin qui ne manquait pas d'aplomb pour jouer une œuvre complète devant l'une des cours les plus puissantes du vieux continent. La classe, non ? Quelques années plus tard, alors qu'il a déjà plusieurs compositions à son actif et qu'il n'a même pas 15 ans, il est de retour avec la fausse ingénue qu'il tente de faire représenter. C'est alors son premier échec. Néanmoins, il n'en a pas pris ombrage. Il s'est remis au travail. 9 ans plus tard, alors que le jeune compositeur ne fait qu'écrire et gagne en popularité, c'est le moment qu'il choisit pour revenir à Vienne, juste après avoir rencontré sa future épouse. Il croit en la loi des séries et estime pouvoir profiter de la chance une nouvelle fois. Il vient d'être embauché par l'archevêque de Salzbourg et voit en cette opportunité un véritable honneur. Vienne est à l'époque une ville cosmopolite, où les gens de toute l'Europe tentent leur chance. La capitale compte plus de 200 000 habitants, un nombre important pour le temps en question, et sa vivacité est pour le compositeur une source d'inspiration non négligeable. Il aime la largeur des rues, la foule qui se masse et qui vit d'activités diverses et variées. Salzbourg, sa ville natale, était bien différente. Et sa carrière musicale va y connaître un nouvel élan, exactement comme Paris lui en a apporté un également. N'oublions pas, Vienne est une capitale de la musique à l'époque. Le nombre de concerts qui s'y déroulent est pléthorique. Des spectacles sont donnés chez des particuliers ou dans des endroits publics. Et Mozart obtient la satisfaction de se sentir compris dans cet environnement nouveau pour lui. Cette belle ambiance est cependant considérablement ternie dès la fin de l'année par son renvoi par l'archevêque, qui ne supporte plus l'arrogance du jeune musicien qui se sent infantilisé et sous-payé. D'un coup de pied au derrière, littéralement, le chambellan de l'homme d'église le renvoie. Mozart n'a alors plus d'autre choix que de se lancer dans une carrière de musicien indépendant à ses risques et périls. Pour maintenir, voire augmenter son train de vie, le compositeur ne dispose pas de 50 options. Il doit donner des cours à des enfants de l'aristocratie et de la noblesse de Vienne et alentour. Et ce, sans en avoir du tout la vocation. Pour lui, c'est l'assurance d'un revenu financier, point barre. Une autre solution, ensuite, est celle de donner des concerts très prisés par ces mêmes hautes sphères, où il est bien souvent pianiste et compositeur. Les concerts publics sont généralement financés, eux, par des souscriptions à verser aux musiciens. Enfin, en dernier lieu, il lui est possible de vendre des compositions aux premiers éditeurs musicaux, bien que les sommes proposées soient des plus modestes sur ce point. Rapidement, il est submergé de travail, vit en dehors de la réalité et dépense sans compter l'argent qui arrive pourtant de manière régulière et continue. Voilà le point faible des gens de génie. Vivre trop souvent déconnecté du monde réel, virevoltant au-dessus des normes et des liens sociaux. Ce que son père craignait arriva. Le jeune compositeur est tout à fait incapable de maintenir sa clientèle en entretenant ses rapports cordiaux avec elle. Il manque d'initiative pour se démarquer de ses concurrents plus malins, et sa qualité au piano, recherchée et expressive, ne fait pas non plus de lui un virtuose du jeu. Mais Mozart n'abdique pas. Il se lève chaque matin à 6 heures, compose de 7 à 9, donne des cours ensuite jusqu'à midi et reprend la composition jusqu'à 21 heures. Les dimanches, les jours fériés, très peu pour lui. Il écrit encore et toujours. À peine marié en 1782, il achète un vaste hôtel particulier avec des domestiques, des dorures et des vêtements à la dernière mode. Disons-le, il vit très clairement au-dessus de ses moyens alors qu'il est maintenant chef de famille. Mais son image, très importante pour les personnes auxquelles il vend ses musiques, nécessite ses achats. Son objectif personnel principal est d'ailleurs de rencontrer à tout prix l'empereur Joseph II qui dirige l'Autriche. C'est dans ce cadre que lui et Salieri vont enfin être amenés à se rencontrer. L'empereur d'Autriche est connu à cette époque pour être un mélomane et un mécène des arts. Cependant, Mozart ne réussira jamais dans son entreprise de rapprochement avec le souverain. Tout au plus, il reste musicien de chambre, alors que Salieri, lui, occupe le rôle de maître de chapelle, un poste des mieux rémunérés. Les deux hommes composent des choses très différentes, et les oreilles viennoises, y compris celles du souverain, sont encore peu en accord avec ce que produit Mozart. Ses œuvres sont plus surprenantes, et les habitudes d'alors sont plus tournées vers un classicisme plus sobre, comme celui produit par Salieri. La consécration décisive à Vienne n'arrivera jamais, et ce n'est que lorsqu'il se tourne hors les murs de Vienne et qu'il produit ses grands opéras que la magie commence à opérer. Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Così fan tutti, fantastique trilogie considérée comme l'apogée de l'histoire de l'opéra, vont fasciner et inspirer les générations à venir. Le triomphe est absolu à Prague et en province, mais pas à Vienne. Bien que Joseph II semble apprécié, il émet quelques doutes quant à la réception par les Viennois de ses œuvres si particulières. Mozart rencontre pourtant à cette occasion à Vienne le préfet de la bibliothèque de la cour qui devient son mécène et surtout lui fait découvrir le répertoire de Bach et Handel. Mozart est subjugué. La place qu'ils prendront tous deux dans la création de sa musique est considérable. L'épaisseur que semble prendre le musicien n'est pas du goût de tous et Salieri commence doucement à ne pas apprécier l'ombre qui plane au-dessus de sa tête et ce, dès les années 1782. Mozart fait la rencontre de Haydn, le compositeur qu'il admire le plus, et le vieil homme tombe sous le charme de la musique de son jeune admirateur. Dès 1783-1784, ils se côtoient et s'inspirent l'un l'autre. Il se rapproche des milieux francs-maçons, le devient lui-même, et n'hésite pas à quémander des avances d'argent considérables à certains de ses amis du même cercle. En 1788, la situation financière du couple est catastrophique. Salieri, lui, est toujours musicien à la cour et l'essor de Mozart, s'il titille son ego, ne menace certainement pas sa place, et ce d'autant plus que l'année suivante, en 1790, Joseph II décède. Pour Wolfgang, c'est la fin de tous les espoirs de pouvoir un jour intégrer le groupe si prisé des musiciens du palais de Schönbrunn. Pourtant, durant les dernières années de la vie du souverain, et bien qu'il dispose d'une compréhension limitée de son art, ce dernier avait soutenu la réalisation de ses trois grands opéras. Pour Mozart, la nouvelle est rude à encaisser, d'autant que le nouveau leader du pays est beaucoup plus conservateur et répugne à l'idée d'écouter de la musique. Exit donc les rêves de devenir un jour aussi grand que Salieri. L'année 1791 qui s'ouvre est donc rapidement celle du « qui tout double » dans l'esprit du musicien. Sa femme est enceinte de leur sixième enfant et leur niveau de vie n'est plus compatible avec les revenus qui entrent plus péniblement. Première étape, il faut déménager. Mais alors que l'horizon semblait bouché en décembre, le passage à la nouvelle année déclenche, comme par magie pour le musicien, une renaissance. Les commandes s'accumulent, dont un opéra pour le couronnement impérial à venir. Cela l'oblige à stopper l'écriture de l'un de ses chefs-d'œuvre en écriture, la célèbre Flûte enchantée. Les délais pour l'opéra commandé par la couronne sont dantesques, mais il accepte. Il le compose et le met en place en moins de 20 jours, une pure folie. Du moins, c'est ce qu'il affirme, pour accentuer la prouesse réelle d'une si rapide composition. En réalité, il lui a fallu 5 à 6 semaines, mais pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà à quoi peut ressembler un opéra, vous pouvez mesurer à coup sûr l'ampleur du chantier. Mais là encore, la déception est immense. Un accueil glacial est réservé à ce travail. Heureusement, sort à la fin de l'été indien la Flûte enchantée qui, elle, prend déjà absolument toute sa place. Même à Vienne, les critiques sont extraordinaires, les retours dithyrambiques. Mozart, cloué au fond de son lit, victime d'épuisement, vit alors sa dernière joie. Certains voient dans cette œuvre la révélation de quelques secrets francs-maçons et estiment que Salieri s'est senti directement concerné, prenant comme un affront le fait d'être cité de manière négative et indirecte dans le travail de son homologue. Mais alors que tous les indicateurs le poussent dans le sens du repos, Mozart, lui, n'est jamais rassasié. Il accepte la commande d'un requiem, passé par un illustre anonyme dont il ne connaîtra même pas le nom. Le travail est considérable, mais il accepte encore. En octobre 1791, alors que les époux Mozart se promènent ensemble dans le plus grand parc public de Vienne, Wolfgang éclate en sanglots. Il se réfugie dans les bras de sa femme, lui avouant sans crainte d'être victime d'un empoisonnement. Et en effet, il se sent mal, se concentre beaucoup moins facilement et est persuadé de prendre du poids d'une manière totalement inhabituelle. Le penchant pour la paranoïa du musicien augmente. Pourquoi un inconnu lui commanderait-il un requiem? Une messe mortuaire? Il est alors persuadé d'en écrire un pour lui-même. Il plonge dans un climat d'angoisse profond qui ne cesse de le faire chuter vers l'abîme. L'hiver qui arrive est annonciateur de catastrophes. La débâcle physique du génie s'amorce dès la fin du mois de novembre où son corps, complètement enflé et à la peau tendue au possible, ne peut plus le porter. Il est contraint de rester alité. Il hurle à sa femme qu'on le tue, que tout ça a été fomenté par le commanditaire de ce requiem qui se trouve là, pas encore achevé sur son bureau. sa main s'immobilise sur la huitième mesure, entrée dans la légende sous le nom de Lacrimosa. C'est l'un de ses élèves qu'il sélectionne qui va terminer cette œuvre. Une ultime nuit de forte fièvre finit par terrasser le génie, qui s'éteint à seulement 35 ans, le 5 décembre 1791. Il est minuit 55 et sa femme fait arrêter toutes les pendules de la maison. Jamais plus, elles ne seront remises en route. L'enterrement passé, Constance ne peut s'empêcher de penser aux craintes de son défunt mari concernant l'empoisonnement dont il aurait été victime. Et si son Wolfgang disait vrai ? Et si cette chute si soudaine du colosse aux pieds d'argile n'était autre qu'une fin provoquée par la perfidie ou la jalousie d'un concurrent ? La pauvre femme, sans avoir jamais eu de réponse franche à ces questions, va passer le reste de sa vie à s'interroger.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous relate l'heure H de la mort d'un génie musical jamais égalé aujourd'hui, Mozart. Alors que son corps gonflé ne peut plus le porter et que des fièvres le rongent, il finit par mourir à l'aube du mois de décembre de l'année 1791. Mais alors, qu'est-il vraiment arrivé au musicien ? Mort naturelle, maladie, ou assassinat orchestré par Salieri ou un autre de ses concurrents ? La science, comme souvent dorénavant, a apporté ces dernières années des réponses claires aux interrogations. En réalité, cette opposition entre les deux hommes est plutôt un phénomène moderne. De leur cohabitation n'est pas née une opposition conduisant à des envies de meurtre de l'un sur l'autre. À la fin de sa vie, alors que la raison le quitte, Salieri lance à qui veut bien l'entendre qu'il aurait pu tuer Mozart. Mais dans quelle mesure est-il possible de prendre avec sérieux de telles élucubrations d'un homme qui se rend compte nécessairement du poids d'avoir vécu aux côtés d'un tel compositeur ? La légende du meurtre de Salieri sur son homologue est née d'un opéra russe de la fin du XIXe siècle, basé sur un drame en vers de Pouchkine, rédigé, lui, en 1830. Le mythe prend son essor. Salieri, jaloux, a tué son rival. Oui, mais ça ne tient pas. Comment expliquer que le meurtrier potentiel, qui est de son côté bien plus en grâce à la cour que Mozart, dont les œuvres sont mieux reçues à Vienne, qui est adoubé par un public des plus larges et avec un poste qui, lui, attire les jalousies, irait assassiner son jeune collègue ? Eh bien, ça ne tient pas. Et cette histoire est simplement liée à un phénomène postérieur à leur existence, le poids de la postérité. En effet, de leur vivant, les deux hommes ont collaboré, se sont parfois même rendus hommage. En 1788, Salieri reprend avec succès les Noces de Figaro. Mozart s'est lui aussi grandement inspiré de certaines œuvres de son homologue pour écrire les siennes. De plus, en 2016, la découverte d'un morceau disparu, une cantate solo pour soprano écrite à trois mains, dont celle de Mozart et Salieri. La rivalité, si elle a existé, n'était que fraternelle tout au plus, et l'admiration fut mutuelle. Mais le poids de la postérité a porté Mozart au nu alors que l'opéra qui accuse Salieri de l'avoir empoisonné, et plus récemment encore le film Amadeus, absolu chef-d'œuvre, ont poussé Salieri dans les limbes d'un oubli teinté de mépris. Posez-vous la question. Est-ce que vous connaissez une série de notes signées Salieri ? Si vous n'êtes pas un spécialiste de la question, peu de chance. À l'inverse maintenant, rien que le nom de Mozart vous inspire sans doute quelque chose. Une note, une mesure, un opéra. Le génie dans toute sa splendeur résonne peut-être même à la simple évocation de ce nom, entré par les grandes portes dans l'histoire, Wolfgang Amadeus Mozart. Pour autant, Salieri est loin d'être un amateur, et sa musique, si elle n'est pas révolutionnaire, est de très grande facture. La postérité l'a rendu jaloux et médiocre. Il n'en est rien. Cet homme a tout de même été directeur de l'opéra italien et maître de chapelle de l'empereur d'Autriche, comme nous l'avons vu précédemment. Paris, Rome, Venise, sa musique est jouée dans les plus grandes villes et les critiques sont alors unanimement positives. Il vous manque encore un élément pour être convaincu. Il a été le professeur et parfois le mentor des plus grandes figures musicales qui suivent sa carrière à lui. Et je parle ici de Beethoven, Liszt, Schubert, Hummel, entre autres. Et nous pourrions continuer encore. On peut donc légitimement douter du fait que ce dernier se sente menacé par Mozart et ses productions géniales, certes, mais moins connues. Il faut reconnaître une rivalité absolument nécessaire dans le cadre de ce métier où l'ego est le principal compagnon des compositeurs, mais il semblerait qu'elle fût bien plus saine qu'on a bien voulu nous le faire croire pendant longtemps. Mais alors, de quoi est mort Mozart s'il n'a pas été empoisonné? Et pourquoi, à la fin de sa vie, Salieri s'accuse-t-il de l'avoir fait? Eh bien, patience. Nous touchons au but. Un certain Beethoven, témoin de certaines des crises de Salieri, qui fut l'un de ses maîtres, se persuade de l'empoisonnement de Mozart par ce dernier. Après chaque crise, une fois la lucidité revenue, Salieri revient sur ses déclarations et refuse d'admettre l'impensable. Non, il n'a pas tué Mozart. Peut-être alors ces mots, qui arrivent dans un contexte mental incertain, viennent d'un sentiment de culpabilité. Les deux hommes se côtoient régulièrement à la fin de la vie de Mozart et Salieri n'intervient pas alors que la mauvaise santé de son jeune homologue se dégrade et que sa soif de travail le pousse entre les bras de la faucheuse. Sur son lit de mort, Salieri confiera une dernière fois ne pas avoir empoisonné Mozart. La rumeur, elle, circulait déjà depuis longtemps. Si Salieri n'a pas empoisonné le virtuose, peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait. Rappelez-vous la flûte enchantée. Mozart y aurait révélé des secrets de l'initiation pour devenir franc-maçon. Alors, le mouvement aurait-il pu le faire supprimer? Là aussi, c'est en réalité peu probable. Pourquoi supprimer uniquement le maître d'œuvre et pas tous ceux ayant participé au projet et qui auraient été mis au courant des révélations dans ce cas-là? Non, la théorie ne tient pas non plus. Que faire alors du sentiment même de Mozart qui se croyait être empoisonné? Mieux que ça, il est persuadé de connaître le poison qu'on lui a administré. L'aquatofana, une poudre d'arsenic qui agit lentement à petite dose et affaiblit la victime jusqu'au dernier saut de l'ange. Rappelez-vous que le funeste moment intervient au moment où il écrit un requiem réclamé par un auteur mystérieux et inconnu. L'un des premiers biographes de Mozart rapporte les paroles du musicien à ce sujet. Il dit ceci. « J'écris ce requiem pour moi. Je ne le sens que trop. Je n'en ai plus pour longtemps. On m'a empoisonné, c'est certain. On ne peut pas me libérer de cette idée. » Alors qui est le commanditaire de ce fameux requiem qui, pendant longtemps, semblait être un message codé en provenance de l'assassin du génie? En réalité, il n'en était rien. Les recherches historiques nous ont permis de remonter jusqu'au noble qui passa commande de manière anonyme auprès de Mozart. Cet homme qui venait de perdre sa femme souhaitait lui offrir un requiem afin de lui rendre hommage, mais il souhaitait aussi se faire passer pour son auteur-compositeur. Vous me suivez, n'est-ce pas? Le plagieur n'avait aucun intérêt alors à passer commande à découvert s'il souhaitait ensuite tirer la couverture à lui sur la réalisation de l'œuvre. Mozart n'est de plus pas mort empoisonné, et la science médicale historique aujourd'hui permet de le prouver. En effet, en se basant sur les témoignages de l'époque, qu'ils soient de ses amis, de sa femme ou même des médecins, il est facile d'attribuer le décès du virtuose à des maladies naturelles et pas du tout à la suite d'une intervention maligne et humaine. Constance est persuadée jusqu'au bout également que le gonflement excessif du corps avant le décès est un symptôme qui permet de relier la mort à un empoisonnement. Il n'en est rien. Une liste dressée par des chercheurs permet d'établir que près de 140 causes sont envisageables. tenez-vous bien, petit florilège. Grippe, hémorragie cérébrale, syndrome maniaco-dépressif, etc. Plus précisément, le décès a pu être relié à une insuffisance rénale et à une fièvre rhumatismale. Le tout conjugué à un moral en berne, sa paranoïa, sa ruine, sa condamnation pour impayé et sa solitude, tant son caractère pouvait être difficile et instable. Salieri, les francs-maçons ou le commanditaire du Requiem n'y sont pour rien. À figure légendaire, naissance de mythe, et ils furent nombreux à la suite de l'enterrement du virtuose. Fait avéré, il n'a pas eu de croix, ce qui a choqué dans certains milieux viennois à l'époque. Pire, c'est la fosse commune qui attend le compositeur ruiné. Un des fossoyeurs aurait alors cerclé le corps de fil de fer afin de pouvoir le retrouver. En 1801, il aurait ensuite ramassé le crâne de Mozart afin de le revendre à un anatomiste de la ville de Vienne qui, à la fin de sa vie, l'offre en retour à la ville de Salzbourg, dans laquelle Wolfgang est né. Nous savons aujourd'hui, grâce à des tests ADN, que cette boîte crânienne n'est pas celle du compositeur. À plusieurs reprises, des admirateurs ont tenté de retrouver ses restes, mais en vain, tant les fosses communes du cimetière Saint-Marc de Vienne étaient souvent retournées pour y faire de la place. Génie musical absolu, Mozart est l'auteur de 893 œuvres selon le dernier recensement opéré, avec en tête de liste des réalisations majeures qui nous accompagnent aujourd'hui encore dans la culture populaire, qu'elles soient cinématographiques, publicitaires ou même dans les standards téléphoniques. Quoi qu'il en soit, la carrière et la vie de l'homme ont été à l'image de ce potentiel si précoce qu'il développa, celui d'une étoile filante, destinée à faire briller son siècle. Ces mots sont ceux d'un autre génie, militaire cette fois, Napoléon Ier.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.